Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez sur BPM pour notre rendez-vous hebdomadaire, les rendez-vous du Mantois. Il est 8h passé de 3 minutes et comme chaque vendredi, nous sommes en direct pendant 20 minutes depuis le bureau d'un élu du Mantois. En cette fin de semaine, nous sommes à Issou, commune urbaine de 4000 habitants, située entre Mantes-la-Jolie et Melun. Et pour nous recevoir aujourd'hui et en parler comme il se doit, Lionel Giraud, maire de la commune depuis 2020. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous revoir au sein de la mairie. Ce matin ensemble, nous allons aborder plusieurs thèmes importants pour la commune. Tout d'abord, nouveauté de la rentrée, la tarification sociale pour la cantine scolaire, puis la nouvelle tarification pour le service des ramassages des déchets. Nous parlerons également de la société Ciment Calcia implantée en partie sur la commune et du projet Next City avec l'arrivée de 76 logements sociaux. Pour la rentrée, vous avez donc bien mis en place un dispositif finalement assez peu connu, cantine à 1 euro. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif ?
Oui, alors en premier lieu, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de BPM. Donc nous avions un système de tarification de cantine à Issou où le tarif le plus bas était de 3,01 € et le plus haut de 3,47 €. Donc ce qui fait qu'entre des gens gagnant confortablement ou en tout cas suffisamment leur vie et des gens en très forte difficulté, il n'y avait que 46 centimes d'écart par repas, donc ce qui était quand même très peu. Donc on a voulu faire un système plus juste, plus équitable. Donc ce système, on aurait voulu le mettre en place un petit peu plus tôt, mais pour ça, on voulait aussi avoir du recul. Donc pour avoir du recul, il faut une année de fonctionnement entière. Et cette année entière, de 2020 à 2022, pour les raisons que nous connaissons tous, malheureusement, il a fallu un petit peu attendre pour l'avoir. Donc nous nous sommes mis à la tâche l'an dernier. Et pour mettre en place cette réforme, nous sommes appuyés sur le dispositif dit des cantines à 1 euro, qui a été instauré par le gouvernement en 2018 et qui concerne concerne un certain nombre de communes de moins de 10 000 habitants avec un certain nombre de critères. En fait, pour chaque cantine qui va être tarifée à 1 euro aux familles, l'État va reverser 3 euros à la commune, ce qui permet de ne pas faire payer ce tarif particulier par le reste des familles. Comme on dit, de pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc sur Issou, ce tarif va concerner une centaine d'enfants, ce qui représente à peu près 30% des élèves scolarisés en primaire et en maternelle. Alors pour parler de chiffres concrets, parce que dit comme ça, c'est pas forcément évident.
Pour bien se rendre compte de
Des réalités. Alors bon, ce sont des ordres de grandeur. Je ne garantis pas les chiffres au centime près, mais mettons un couple avec deux enfants qui gagne 3000 euros et moins mensuellement. Donc ce couple avec deux enfants va être facturé 1 euro le repas. Donc ça donne une petite idée. Un couple de personnes au SMIC, de très bas salaire en tous les cas. Voilà. Et le maximum maintenant va être de 4,57 euros et va concerner en l'occurrence plutôt des revenus dans le même cas de figure, un couple de parents avec deux enfants, des revenus mensuels supérieurs à 8000 euros. Donc qu'est-ce que cela donne sur Issou ? Sur Issou, nous allons avoir deux tiers des familles qui vont payer autant ou en tout cas beaucoup moins que l'année dernière. Ensuite, nous allons avoir je vous donne une estimation, on va dire 20% des familles, disons, gagnant entre 4500 et 5500 euros dans le même cas de figure, qui vont payer plus, mais néanmoins avec une hausse contenue et inférieure à l'inflation actuelle, qui est en général qu'on estime à 7 ou 8%. Et en fait, compte tenu aussi de la structure sociale de la commune, seule une petite minorité, alors 10-15%, on n'a pas encore fait tous les calculs, aura une hausse peut-être véritablement importante, supérieure à ces 8%, mais là on sera vraiment dans des revenus de 3000, de 7000 ou 8000 euros sur une famille avec deux enfants.
C'est vrai qu'en cette période d'inflation, de nombreuses cantines ont augmenté et ont vu le montant augmenter pour les repas. Ça vous tenait vraiment à cœur cette mesure de pouvoir contenir aussi ce prix ?
Ça nous tenait, oui, vraiment à cœur parce que 46 centimes d'écart, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. C'est vraiment très très peu. Il faut quand même se pencher vers les familles les plus en difficulté, mais en même temps ne pas léser les classes moyennes. Alors on entend souvent, notamment dans les discours politiques, oui mais c'est nous qui payons pour les autres, etc. Donc c'est un système de jalousie qui se crée. Des fois, je le dis souvent, hein, des fois c'est un raisonnement qui est un peu irrationnel, mais il y a une part de vrai. Faut pas se mentir non plus, hein, c'est quand même les classes moyennes aussi qui payent souvent la facture plus que de très grandes fortunes d'ailleurs. Et donc ce qu'on a voulu, c'est ne pas léser non plus ces salaires moyens, ces cadres moyens, ces employés, ces professions intermédiaires pour des gens en grande difficulté, puisqu'à l'arrivée, finalement, on recrée de la difficulté sur l'autre difficulté, quoi.
Concernant le scolaire, on va passer à un style un peu différent. Vous venez d'écrire une lettre au ministre de l'Éducation nationale pour remonter une problématique qui, sous d'ailleurs, n'est pas la seule à rencontrer. Comment gérer le harcèlement sur le temps du périscolaire et comment se concerter entre municipalité et éducation nationale? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, c'est un sujet. Alors, c'est vrai que sur le harcèlement scolaire, le sujet est vaste. Hein, on le voit bien depuis plusieurs semaines. Mais mon expérience en tant que maire et l'expérience de mes adjoints fait que nous, on s'est rendu compte d'une difficulté qui est souvent passée sous silence. C'est qu'un enfant, dans une journée, il va être, mettons, de 8h30 à 11h30 sous la responsabilité de l'éducation nationale, de 11h30 à 13h30 s'il mange à la cantine sous la responsabilité des agents de la mairie. Ensuite, rebelote 13h30, 16h30 sous la responsabilité de l'éducation nationale. Et si jamais il va au centre de loisirs, il repasse sous la responsabilité de la mairie. Pendant ce temps-là, les enfants, un enfant harceleur, un enfant harcelé, eux, ils font pas la différence, hein, ils vont pas changer
soit
leur comportement,
à la municipalité ou
voilà, ils vont pas changer leur comportement en se disant, ah bah tiens, il est 11h31, maintenant on est passé de l'éducation nationale à la mairie, je pense pas qu'ils en aient conscience, les parents déjà souvent n'en ont pas conscience, et ce qui fait que quand des cas nous reviennent, le premier réflexe, qui est effectivement le meilleur réflexe, c'est d'aller voir les enseignants. Mais forcément, on vient voir aussi la mairie. Et si on veut que la mairie et l'école aient le même discours, mais surtout, plus que le discours, aient la même manière de réagir, il faut qu'il y ait une instance de concertation. Voilà, on ne peut pas se... Parce que sinon, chacun va faire ça de manière empirique, déjà que... On va se dire franchement les choses, chacun le fait un peu de manière empirique, mais alors, si chacun le fait de deux manières empiriques différentes, ça ne peut qu'avoir des conséquences désastreuses. C'est une difficulté de terrain qui est souvent tue, mais qui est une réalité. Et déjà, parce que la plupart des cas, c'est au secondaire, hein, c'est dans le collège, mais si déjà on arrive à... par un petit dispositif, hein, quelque chose qui coûte pas grand-chose, hein, à essayer de contenir cette problématique de harcèlement à l'école primaire, ça fera toujours moins de travail à faire par la suite dans le secondaire, et puis ça rendra aussi les enfants heureux, l'enfant harcelé plus heureux, l'enfant harcelé bien évidemment, mais n'oublions pas que l'enfant harceleur, même s'il est il n'est pas victime dans un premier temps, mais voilà, ça reste un enfant et c'est pas non plus un coupable en puissance qu'il faut absolument mettre au pilori. Voilà.
C'est important de le signaler. En mai, vous avez organisé une concertation publique. La communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise a sondé chaque mairie pour décider de son propre service de ramassage des déchets à partir de 2024. Et la majorité des votants a choisi un service finalement assez proche de celui qui est mis en place.
Oui, voilà. Alors, donc on va pas rentrer dans les détails du service, mais en fait, quelle était la problématique ? La communauté urbaine est un regroupement de 6 intercommunalités différentes, dans lesquelles déjà il y avait parfois en interne des tarifs, des taux de taxes ordures ménagères différents. Donc vous avez peut-être 40 ou 50, j'ai reçu le tableau hier d'ailleurs, taxes sur les ordures ménagères différentes sur 73 communes.
Ce qui est énorme, clairement.
Voilà, ce qui est énorme et avec des services différents. Ceux qui payent le plus sont pas forcément ceux qui ont le moins et vice-versa. Enfin bon, qui payent ou qui ont le plus et vice-versa. Et donc la loi et puis un petit peu de sens moral et d'éthique et de bon sens nous incite effectivement à essayer de coordonner tout ça, de le rendre un peu plus homogène. Au départ, l'intention de la communauté urbaine était de faire aveuglément le même taux pour tout le monde. Donc plusieurs voix se sont levées dans les mairies pour dire « Non mais attendez, entre le petit village de 130 habitants et le Valfour, on n'a pas forcément les mêmes habitudes. » Et puis même des fois entre deux communes voisines, hein, y en a qui ont été habitués de tout temps à ce qu'on leur ramasse le verre VE2RE. Il y en a qui de tout temps ont été habitués à ce qu'on leur ramasse en porte-à-porte le verre VERT. Les végétaux. Donc chaque commune a un petit peu ses petites traditions et on sait que dès qu'on touche à ça, ça peut vite susciter des levées de fourches, on va dire. Donc on a dit bah essayons de faire quatre grandes familles. Voilà. Donc ce qui a été fait on a fait quatre grandes familles de type de ramassage. On en a fait une consultation publique. Les Issoussois effectivement ont choisi, ce qui est pas très étonnant, à 65% de mémoire celle qui se rapprochait du service actuel. Surtout ce qui est intéressant, parce que contrairement à certains articles qui sont parus dans la presse, c'est que pour un certain nombre de communes, ce nouveau service non seulement ne va pas entraîner une hausse de la taxe des ordures ménagères, mais alors bon, nous en même temps, on partait de loin, on était la deuxième commune la plus chère hein, sur les 71 ou 73 de l'agglomération. Mais pour certaines, ça va entraîner une baisse. En l'occurrence, à Issou, le taux de taxe ordures ménagères en 2024, hein, je parle pas en 2023, mais en 2024. Donc la taxe foncière que les gens recevront à la rentrée 2024, en septembre, va passer de 10,9 à 7,5. Sachant que le point est en général autour d'une trentaine d'euros, bon, après on verra bien l'inflation, mais on peut supposer assez aisément que ça va quand même se concrétiser par une baisse de 80 ou 100 euros sur cette taxe pour les foyers ce soir.
Ce qui n'est pas négligeable.
Ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent.
Un point important en ce moment aussi pour la commune, vous êtes actuellement, en tout cas il est actuellement en train d'être discuté, je veux bien sûr parler de la société Calcia avec l'exploitation de la carrière de Guy de Troncourt. Est-ce que vous pouvez nous présenter la situation actuellement ?
Oui, alors donc c'est une société donc qui est en fait située à Gassicourt mais en frontière de la commune d'Issou. L'accès d'ailleurs se fait d'ailleurs par une entrée qui est issue d'un rond-point qui est à l'entrée de l'agglomération, qui est d'ailleurs le rond-point du collège. Donc on a eu la mauvaise surprise, les pieds dans l'eau, de recevoir la nouvelle de cette consultation qui avait lieu du 10 au 24 août.
Qui est en plein pendant les vacances.
En plein pendant les vacances, la date idéale, celle où tout le monde se regarde ce qui se passe dans sa commune. Voilà, donc ça a été... Alors moi le premier d'ailleurs, j'ai pas forcément réagi tout de suite. Le soir j'ai quand même jeté un œil, voilà, bien qu'étant sur mon lieu de villégiature. Et là j'ai eu, en lisant un petit peu les documents, j'ai découvert de très mauvaises surprises. Alors dans un premier temps, j'ai déjà demandé à ce que ce soit prolongé jusqu'au 5 septembre, que les gens éventuellement, malgré tout entre deux courses de rentrée, puissent poser une contribution fin août début septembre. Alors quel est l'objet de cette consultation ? L'objet de cette consultation, c'est de prolonger l'autorisation d'exploitation de ces carrières jusqu'au 31 décembre 2025. Alors, je vous relis ce qui est écrit. Donc, l'objet, c'est une remise en état de la carrière par l'apport de matériaux inertes externes acheminés par voie routière.
Et c'est cette partie qui pose problème.
C'est cette partie qui pose problème. En tout cas, pour les souffrir. Alors, il y a d'autres choses qui posent problème, mais ça, je laisse ça aux associations environnementales. Mais il y a des choses qui sont évidentes, des nuisances sonores, hein, parce que en fait, ça va représenter un camion en plus traversant l'agglomération d'Issou toutes les 3 minutes.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui est annoncé, c'est 20 camions en plus par heure.
Voilà, donc un camion toutes les 3 minutes et ne passant non pas par la périphérie, ce qui à la rigueur serait un moindre mal, mais traversant vraiment l'agglomération d'est en ouest, sachant que notre commune a une voie d'accès principale qui est justement, quasi unique même j'ai envie de dire, pour aller vers l'extérieur, et qui est justement cette voie, la route départementale 190. Et donc, outre les nuisances sonores environnementales que peuvent drainer le passage régulier de camions, c'est quand même 20 camions effectivement supplémentaires par heure, on l'a dit, de 7h à 18h, donc en plein dans les horaires travaillés, d'ouverture du collège où les gens vont travailler, etc., sur un minimum, hein, de 252 jours par an. Donc ils s'excusent pas non plus de faire ça un peu le week-end tant qu'ils y sont, une fois de temps en temps. Donc ça posait quand même de très très gros soucis, sachant qu'effectivement, donc traverser de toute l'agglomération d'est en ouest et arriver sur le rond-point, aussi on est à peu près sur ce collège 250-260 élèves qui sont dissous, on va dire, plus, hein, c'est une, plusieurs dizaines de la commune de Porcheville. Et il traverse toute la commune le long de cette route. Donc le risque accidentogène est aussi démultiplié avec les conséquences dramatiques potentielles.
Vous avez fait des propositions ?
Alors, nous avons fait plusieurs propositions, hein, deux principalement. Une qui retient, on va dire, notre préférence et qui retient la préférence de la plupart des élus du territoire, hein, notamment le maire de Gargenville, Yann Perron, que je salue au passage. En fait, il y a un tunnel qui préexistait dans ces carrières, avec des chariots, un petit peu comme dans Germinal, par exemple, ou... pour prendre cette référence et qui servait justement à transporter les extractions minières, etc. Donc ce tunnel était à sens unique, hein, c'était en sens de la descente, mais aujourd'hui on a les moyens de le faire fonctionner dans les deux sens. Alors, ça demande des investissements de la part de Cassia, c'est là où il rechigne un petit peu, mais ça permettrait d'éviter déjà toute cette partie transport routier, et ça permettrait surtout par ce tunnel qui descend jusqu'en bord de Seine, de tout amener ou de tout remonter directement de la Seine. Et après, bon, le transport routier, s'il faut le faire, on le fait soit de ces quais de Seine, soit éventuellement, vu qu'on est sur des quais de Seine, pourquoi pas par bateau, par barge. Ça peut être aussi une idée intéressante à creuser, même si là aussi Cassia ne semble pas très très partant.
Vous parlez du tunnel et vous nous dites qu'il n'est plus en fonctionnement. Est-ce que ça fait longtemps qu'il n'est plus utilisé ou est-ce qu'il reste quand même encore?
Ça fait quelques années. Ils ont cessé l'exploitation. Alors, je n'ai plus l'année SP. Ça doit être 2017-2018, je crois.
Finalement, assez récent malgré tout.
Assez récent. Alors, après, il faut qu'ils modernisent, qu'ils fassent une mise à jour, etc. Mais ce n'est pas quelque chose d'infaisable.
On va rester dans les projets à venir, on va regarder du côté de la parcelle de l'ancien Lidl. Le magasin a quitté les lieux en 2019 et depuis le lieu était en attente, on va dire. C'est désormais un projet de logements sociaux, mais aussi un bel espace de commerce et de services qui se profile.
Voilà, donc Lidl a quitté la ville, moi, je suis devenu maire quelques mois ensuite, plus tard, en novembre 2019, pour s'installer dans la commune voisine de Guitrancourt, dont nous parlions d'ailleurs à l'instant. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'à Issous, nous n'avons plus qu'une boulangerie. Enfin, on a très très peu de commerce, très peu de services. Pour une ville de 4000 habitants, ça, voilà, le risque est de se transformer en ville dortoir. Par ailleurs, nous avons une autre problématique. Nous sommes alors pas carencés, mais en fort déficit de logements sociaux par rapport à la loi SRU. Mais bien au-delà de la loi SRU, il y a un besoin. Aujourd'hui, la crise du logement, elle nous pend au nez. On est quand même pas loin de ce qui est arrivé à l'hiver 1954, hein, avec l'intervention de l'abbé Pierre. Et notamment, on a des problématiques sur les jeunes qui ne décohabitent plus et sur des familles en cours de séparation. Donc, on a prévu un projet le long de cette départementale, qui est le seul axe pour se développer, de 75 logements sociaux, et pour éviter un phénomène de ghettoisation, et puis aussi pour redonner des services et des prestations et des commerces à tout le monde, 1000 mètres carrés de linéaires, de services et de commerces au niveau du rez-de-chaussée.
Les travaux pourraient débuter à partir de quand ?
Les travaux, alors vous savez, quand on pose un permis de construire, il y a toujours des recours, etc. Mais on peut supposer, si tout se passe pas trop mal, dans le courant 2024.
Notre émission va bientôt toucher à sa fin. On va jeter un petit coup d'œil du côté de l'agenda et octobre arrive et avec lui le fameux Octobre Rose.
Voilà, Octobre Rose, hein, donc qui est une opération consistant notamment à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Donc tout au long du mois d'octobre, des week-ends sont organisés dans différentes communes. Donc nous nous sommes associés chaque année avec la mairie de Porcheville pour organiser cette manifestation. Alors un coup c'est plus Issous qui prend les rênes, un coup c'est plus Porcheville, cette année c'est notre tour. Et donc il y a tout un tas d'animations dans les deux communes. Alors je voulais, comme ça, à l'envol, au club de tennis, il y aura des cours de cardio, les jardins de Paul, j'aurais promis que je parlerais d'eux, vont faire aussi des stands de crêpes. Les jardins de Paul, c'est la roseraie du château. Il y aura évidemment des stands d'information, hein, il n'y a pas que le côté ludique, et beaucoup d'associations sportives et culturelles. Globalement, le programme est consultable sur internet et sera affiché, vont s'associer à cette manifestation.
Et bien sûr la marche,
Et bien évidemment la marche, vous faites bien de le rappeler, qui commencera, oui, l'on a c'était en matinée, qui commencera à 13h45. Voilà.
Et ce sera donc samedi 7 octobre.
Le samedi 7 octobre, oui.
Et ce sera le mot de la fin. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus.
C'est moi qui vous remercie.
Cette émission est à présent terminée. Vous pourrez la retrouver ainsi que les précédentes sur notre site internet bpmlaradio.com. Merci à Robin et nos équipes pour la technique et la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve à 8h30 pour votre journal d'information locale et vous laisse en compagnie de Pauline et Fredo dans la mantinale de BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.